Chapitre 8, Me voici, Seigneur, envoie-moi. La fin est proche. Elle arrive sur nous furtivement, imperceptiblement, silencieusement, comme un voleur qui s'avance à pas feutrés, dans la nuit, pour surprendre ceux qui, insouciants et nullement prêts, se sont endormis. Que le Seigneur fasse descendre son esprit sur les cœurs qui se sentent satisfaits pour qu'ils cessent de dormir comme tant d'autres, mais deviennent vigilants et sobres. Bientôt la vérité triomphera dans la gloire, et tous ceux qui choisissent maintenant d'être ouvriers avec Dieu triompheront avec elle. Le temps est court. La nuit vient où nul ne peut travailler. Que ceux qui se réjouissent dans la lumière de la vérité présente se pressent de la communiquer à d'autres. Le Seigneur demande, « Qui enverrai-je ? » Ceux qui désirent se sacrifier par amour pour la vérité doivent répondre maintenant, « Me voici, Seigneur, envoie-moi. » Nous n'avons accompli qu'une petite partie de l'œuvre évangélique que Dieu veut nous voir accomplir dans notre entourage et auprès de nos amis. Il existe dans chaque ville de notre pays des gens qui ne connaissent pas la vérité. Et au-delà des océans se trouvent de nouveaux champs que nous devons défricher et ensemencer. Nous sommes au seuil du temps de détresse, et des difficultés à peine soupçonnées sont devant nous. Un pouvoir diabolique pousse les hommes à faire la guerre au ciel. Ils se joignent à Satan pour tenter d'anéantir la loi de Dieu. Ils ressemblent de plus en plus aux contemporains de Noé, emportés par le déluge, et aux habitants de Sodome, consumés par le feu du ciel. Les puissances infernales sont à l'œuvre pour détourner les esprits des réalités éternelles. L'ennemi a organisé les choses de manière à favoriser ses propres desseins. Affaires, sport, mode, voilà ce qui occupe hommes et femmes. Les plaisirs et les mauvaises lectures faussent le jugement. Dans le chemin qui conduit à la perdition se trouve une longue procession. Le monde, rempli de violence, livré à la débauche et à l'ivrognerie, est en train de convertir l'Église. La loi de Dieu, cette règle de la justice, est considérée comme abolie. Attendrons-nous que s'accomplissent les prophéties concernant la fin avant d'en parler? À quoi serviraient alors nos paroles? Attendrons-nous que les jugements de Dieu s'abattent sur les pécheurs avant de leur dire comment ils peuvent les éviter? Où est notre foi dans la parole de Dieu? Devrons-nous voir se réaliser les choses annoncées pour y croire? La lumière divine a projeté sur nous ses rayons salutaires, nous montrant que le jour du Seigneur est proche, à la porte. Lisons et comprenons avant qu'il soit trop tard. Vos talents répondent à un besoin. Dans son vaste plan, le Seigneur a une place pour chacun. Aucun talent n'est inutile. Est-il petit? Dieu saura s'en servir. Bien employé, il fera exactement l'œuvre pour laquelle Dieu l'a donné. Les talents de l'humble villageois sont nécessaires pour certains travaux que ne sauraient accomplir des dons les plus brillants. Lorsque les hommes mettent leurs énergies au service de Dieu, leurs talents s'accroissent, leurs facultés se développent. Ils sont revêtus de la sagesse céleste pour amener au salut ceux qui se perdent. Mais si les membres d'Église ne se soucient pas de s'acquitter de leurs devoirs envers leurs semblables, comment peuvent-ils s'attendre à recevoir le trésor du ciel? Lorsque ceux qui se disent chrétiens ne voient plus la responsabilité qui leur incombe d'éclairer les hommes qui sont dans les ténèbres. Lorsqu'ils cessent de communiquer la grâce et la connaissance de la parole, ils deviennent moins clairvoyants. Ils n'apprécient plus les richesses du don céleste, et, n'en connaissant plus la valeur, ils ne voient pas la nécessité d'en faire part à d'autres. Nous avons de grandes églises dans différentes localités. Leurs membres ont acquis une certaine connaissance de la vérité, mais beaucoup se contentent d'écouter la parole de vie sans se rendre compte de la nécessité de communiquer à d'autres les lumières qu'ils ont reçues. Ils ne sentent guère leur responsabilité de faire progresser l'œuvre de Dieu, et ne manifestent qu'un faible intérêt pour le salut des âmes. Ils sont très zélés pour les choses de ce monde, mais leur religion n'intervient pas dans leurs affaires. Ils disent, « La religion est la religion et les affaires sont les affaires. » Ils croient que la religion et les affaires ont un domaine qui leur est propre, et que ces deux choses doivent être séparées. Parce qu'ils négligent les occasions et abusent de leurs privilèges, Les membres de ces églises ne croissent pas dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qui explique leur faiblesse, leur manque de connaissance. Ils n'ont qu'une expérience enfantine. Ils ne sont pas enracinés dans la vérité. S'ils restent dans cette condition, ils subiront de nouveau les nombreuses déceptions des jours passés, car ils n'auront aucun discernement spirituel pour faire la distinction entre la vérité et l'erreur. Dieu désire accorder l'effusion du Saint-Esprit. Lorsque des prédicateurs d'expérience entreprennent une campagne d'évangélisation dans un endroit où se trouve une église, les croyants ont le devoir impérieux de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour sa réussite. Qu'ils sondent leur cœur avec prière et abandonnent tout ce qui serait de nature à les empêcher de collaborer avec Dieu et avec leurs frères. Dans des visions de la nuit, il me fut montré un grand mouvement de réforme au sein du peuple de Dieu. Beaucoup louaient le Seigneur, les malades étaient guéris, et d'autres miracles s'opéraient. On remarquait un esprit de prière dans le genre de celui qui se manifestait avant le grand jour de la Pentecôte. Des centaines et des milliers de personnes se rendaient dans les familles et leur expliquaient les Écritures. Les cœurs étaient touchés par la puissance du Saint-Esprit, et on voyait de véritables conversions. De tous côtés, des portes s'ouvraient à la proclamation de la vérité. Le monde semblait illuminé de la lumière divine. De grandes bénédictions étaient accordées aux enfants de Dieu humbles et sincères. J'entendais des actions de grâce et des louanges. On se serait cru en 1844. Dieu désire accorder à son peuple l'effusion du Saint-Esprit. La sécheresse spirituelle dans l'Église n'est pas justifiée. Après l'ascension du Christ, le Saint-Esprit descendit sur les disciples qui attendaient, priaient, et croyaient, avec une plénitude et une puissance qui pénétrèrent tous les cœurs. Dans l'avenir, la terre entière doit être illuminée de la gloire de Dieu. Ceux qui auront été sanctifiés par la vérité exerceront dans le monde une sainte influence. La terre sera enveloppée d'une atmosphère de grâce. Le Saint-Esprit opérera dans les cœurs, et révélera aux hommes les choses de Dieu. Le Seigneur désire faire une grande œuvre par tous ceux qui croient vraiment en lui. Si les membres d'Église voulaient accomplir le travail qui leur incombe, s'engageant dans la lutte à leurs propres frais, chacun se rendant compte de ce qu'il peut faire pour gagner des âmes, beaucoup quitteraient les rangs de Satan pour se ranger sous la bannière du Christ. Si notre peuple agissait selon la lumière qu'il a reçue, nous verrions sûrement le salut de Dieu. De merveilleux réveils s'ensuivraient. Des pécheurs se convertiraient, et un grand nombre d'âmes seraient ajoutées à l'Église. Lorsque nos cœurs seront unis au Christ, et nos vies en harmonie avec son œuvre, l'Esprit qui descendit sur les disciples au jour de la Pentecôte se répandra aussi sur nous. Perdre du temps est un danger. Une scène fort impressionnante a passé devant moi dans les visions de la nuit. J'ai vu une immense boule de feu tomber au milieu d'un groupe de belles maisons, et les détruisant instantanément. Quelqu'un dit alors, « Nous savions que les jugements divins allaient visiter la terre, mais nous ne pensions pas que ce serait si tôt. » D'autres, épouvantés, disaient, « Vous saviez ces choses, et vous ne nous en avez rien dit. Nous les ignorions, nous. » De tous côtés, j'entendais de semblables reproches. Je me réveillais dans une grande détresse. M'étant rendormi, il me semblait être dans une vaste assemblée. Un homme influent parlait devant elle, en se servant d'une map-monde. « Ce globe, disait-il, représente la vigne du Seigneur, qu'il faut cultiver. La lumière céleste brille sur chacun de nous, et nous devons transmettre celle-ci à d'autres. Il faut créer des foyers lumineux en maints endroits pour qu'ils se multiplient. » Ces paroles se firent entendre à nouveau, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors, et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et glorifie votre Père qui est dans les cieux. » Chaque jour qui passe nous rapproche de la fin. Nous rapproche-t-il aussi du Seigneur? Sommes-nous vigilants dans la prière? Ceux que nous côtoyons jour après jour ont besoin de notre aide et de nos instructions. Il se peut que leur état d'esprit soit tel qu'un maudit à propos, sous l'influence du Saint-Esprit, pénètre comme un clou au bon endroit. Demain quelques-unes de ces âmes seront peut-être pour toujours hors de notre portée. Quelle influence exerçons-nous sur ces compagnons de route? Que faisons-nous pour les gagner au Christ? Tandis que les anges retiennent encore les quatre vents, nous devons travailler de toutes nos forces à la proclamation du message qui nous a été confié, sans perdre de temps. Nous devons montrer aux êtres célestes et aux hommes de notre époque dégénérée que notre religion est faite de foi et de puissance, vertus qui ont leur source en Christ, et que la parole de Dieu est son divin oracle. Les âmes des mortels sont sur le plateau de la balance divine. Elles seront soit des sujets du royaume de Dieu, soit des esclaves du despotisme de Satan. Toutes doivent avoir le privilège de pouvoir s'emparer de l'espérance que leur offre l'Évangile. Et comment en entendront-elles parler si personne ne la leur prêche? L'humanité a grand besoin d'une rénovation morale, d'une préparation du caractère afin de pouvoir paraître devant Dieu. Des âmes sont sur le point de périr à cause des erreurs qui prévalent et qui sont voulues de Satan pour contrecarrer l'œuvre du Tout-Puissant. Qui veut se consacrer entièrement au service de Dieu pour devenir ouvrier avec lui? Aujourd'hui, une grande partie de ceux qui composent nos congrégations sont morts dans leurs fautes et dans leurs péchés. Ils vont et viennent comme une porte sur ses gonds. Pendant des années, ils ont écouté les vérités les plus solennelles, mais ils ne les ont pas mises en pratique. C'est pourquoi ils y sont de moins en moins sensibles. Les témoignages les plus émouvants de reproches et d'avertissements n'éveillent plus en eux la moindre velléité de repentance. Les plus douces mélodies que Dieu fait passer par des lèvres humaines, la justification par la foi, la justice du Christ, ne trouvent plus chez eux aucun écho. Bien que le ciel déploie devant eux les plus riches joyaux de foi et d'amour, bien qu'il les invite à acheter de l'or éprouvé par le feu, et des vêtements blancs afin d'être vêtus, et un collier pour oindre leurs yeux, ils lui ferment obstinément leur cœur et refusent d'échanger leur tiédeur contre le zèle et l'amour. Tandis qu'ils font profession de piété, ils en renient la force. S'ils ne se repentent, Dieu les rejettera. Ils ne sauraient faire partie de la famille céleste. Il faut que nos membres sachent que le fait d'avoir leur nom inscrit sur les registres d'une église ne pourra les sauver. Ils doivent se montrer comme des hommes approuvés de Dieu, des ouvriers n'ayant point à rougir. Jour après jour, qu'ils édifient leur caractère selon les directives divines. Qu'ils demeurent en lui et exercent continuellement leur foi. Ils grandiront ainsi jusqu'à la stature parfaite d'hommes et de femmes en Jésus-Christ. Ils seront de vrais chrétiens, joyeux, reconnaissants, conduits par le Seigneur vers une lumière toujours plus pure. Si telle n'est pas leur condition, ils feront partie un jour de ceux qui prononceront cette triste lamentation, « La moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. » Et ils ajouteront, pourquoi n'ai-je pas cherché un refuge dans la forteresse? Pourquoi n'ai-je pas pris au sérieux le salut de mon âme? Pourquoi ai-je méprisé la grâce de Dieu? Frères et sœurs, vous qui connaissez depuis longtemps la vérité, je le demande à chacun de vous, vos actes sont-ils en harmonie avec les lumières, les privilèges et les occasions que le ciel vous a accordées? C'est une question sérieuse que je vous pose. Le soleil de justice s'est levé sur l'Église, et le devoir de celle-ci est de progresser. Ceux qui sont en communion avec le Christ, croîtront dans la grâce et dans la connaissance du Fils de Dieu jusqu'à parvenir à l'état d'homme fait. Si tous ceux qui prétendent croire à la vérité avaient fait leur devoir et profité de toutes les occasions qui leur étaient offertes, ils seraient devenus forts en Christ. Quelles que soient leurs occupations, cultivateurs, mécaniciens, professeur ou pasteur, s'ils s'étaient consacrés entièrement au Seigneur, ils seraient des serviteurs utiles dans la cause du Maître. Les ouvriers doivent former les membres d'Église. Il est un fait évident que tous les sermons n'ont pas eu pour résultat la formation d'une classe nombreuse d'ouvriers évangéliques possédant l'esprit d'abnégation. Cette question est lourde de conséquences. Notre avenir éternel est en jeu. Les églises se dessèchent parce qu'elles ont négligé d'employer leur talent à diffuser la lumière. Il faudrait les instruire avec soin, à l'exemple du Maître, afin qu'elles la fassent briller. Ceux qui ont le soin des églises doivent faire une sélection parmi les membres et confier à ceux qui sont capables des responsabilités tout en leur apprenant comment ils peuvent accomplir le meilleur travail en faveur de leurs semblables. Des techniciens, des avocats, des commerçants, bref, des hommes de toute profession acquièrent des connaissances qui leur permettent d'être des experts en leur matière. Les disciples du Christ devraient-ils être moins intelligents et s'engager au service de Dieu en ignorant tout des voies et des moyens? Obtenir la vie éternelle est une affaire plus importante que toute autre chose ici-bas. Afin d'amener les âmes à Jésus, il faut connaître la nature humaine. Il faut réfléchir sérieusement, prier avec ferveur pour savoir de quelle façon aborder les hommes et leur présenter la vérité contenue dans les Écritures. Dès qu'une église est organisée, que le prédicateur mette les membres à l'œuvre. Qu'il leur apprenne à s'en acquitter avec succès. Nos pasteurs doivent passer plus de temps à enseigner qu'à prêcher. Il faut qu'ils apprennent aux membres à communiquer à d'autres les connaissances qu'ils ont reçues. S'il est indiqué que les nouveaux convertis reçoivent des conseils de ceux qui ont quelque expérience dans l'œuvre de Dieu, il faut qu'ils apprennent à ne pas mettre les prédicateurs à la place du Seigneur. Le plus grand bien qu'on puisse faire à nos membres, c'est de leur apprendre à travailler pour le Seigneur, et à compter sur lui plutôt que sur le prédicateur. Qu'on leur enseigne donc à travailler comme le Christ a travaillé. Qu'ils se joignent à son armée de serviteurs, et œuvrent fidèlement pour lui. Il faut aussi faire un travail actif sous la direction de maîtres compétents. Ceux-ci donneront l'exemple en s'occupant des nécessiteux. D'autres s'efforceront de les imiter. Un seul exemple a plus de valeur que beaucoup de préceptes. Ceux qui ont la direction spirituelle de l'Église devraient faire les plans nécessaires afin de donner l'occasion à chaque membre d'Église d'avoir une part dans l'œuvre de Dieu. Il n'en a pas été ainsi à maintes reprises dans le passé. Les plans n'ont pas été nettement tracés ni pleinement mis à exécution afin que les talents de tous soient mis à contribution. Peu de personnes se rendent compte de la perte subie de la sorte. Dans chaque église se trouve un talent qui, grâce à un service approprié, pourrait être développé pour être d'une grande aide dans cette œuvre. Un plan bien conçu devrait être mis en œuvre pour que les ouvriers soient envoyés dans toutes nos églises, grandes ou petites, pour apprendre aux membres à œuvrer pour l'édification de l'église et aussi en faveur des incroyants. Ce qui est nécessaire, c'est la formation et l'éducation. Que tous y mettent de leur cœur et de leur pensée pour travailler avec intelligence dans l'œuvre de cette époque, se qualifiant pour accomplir ce qui convient le mieux à leurs aptitudes. Ce dont nous avons besoin pour l'édification de nos églises, c'est l'œuvre merveilleuse de sages ouvriers à discerner et à développer les talents de l'Église, talents qui peuvent être employés au service du Maître. Ceux qui se font le devoir de visiter les églises devraient donner des instructions aux frères et sœurs sur les méthodes pratiques pour le travail missionnaire. Qu'il y ait aussi une classe de formation de la jeunesse. De jeunes hommes et femmes devraient apprendre à devenir des ouvriers à la maison, dans le voisinage et dans l'église. Les anges ont attendu longtemps la collaboration des membres de l'église pour l'œuvre qui doit s'accomplir. Ils vous attendent encore. Le champ est si vaste, le devoir si clair, que tous les cœurs sanctifiés seront poussés à offrir leur service comme instrument de la puissance divine. Si les chrétiens travaillaient de concert, avançant comme un seul homme, sous la direction d'une seule puissance, pour l'accomplissement d'un même objectif, ils ébranleraient le monde. L'ordre d'aller dans les chemins doit être suivi au bénéfice de tous ceux qui ont une part active dans les affaires du monde, les professeurs et les conducteurs des foules. Ceux qui portent de lourdes responsabilités dans la vie publique, médecins et éducateurs, juges et magistrats, officiers publics et hommes d'affaires devraient recevoir un message clair et distinct, que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Nous parlons et nous écrivons beaucoup en faveur des pauvres, mais ne devrions-nous pas aussi accorder un peu d'attention aux riches? Beaucoup regardent ceci comme des gens pour lesquels il n'y a pas d'espoir, et ils ne font pour ainsi dire rien afin d'ouvrir les yeux de ceux qui, aveuglés par la puissance de Satan, ont perdu de vue l'idée de l'éternité. Des milliers de riches sont morts sans avoir été avertis parce qu'on les avait jugés sur l'apparence et déclarés irrémédiablement perdus. Mais il m'a été montré que cette classe comprend beaucoup d'âmes affligées bien qu'apparemment indifférentes. Des milliers de riches meurent faute de nourriture spirituelle. Beaucoup de personnes haut placées sentent en elles le besoin de quelque chose qu'elles n'ont pas. Peu de gens de cette classe vont à l'église, car ils ont le sentiment de n'en retirer aucun bénéfice. L'enseignement qu'ils y entendent ne touche pas leur âme. Ne ferons-nous pas un effort personnel en leur faveur? Quelques-uns diront, ne pouvons-nous pas les atteindre par nos publications? Mais beaucoup ne seront jamais touchés par ce moyen-là. Ils ont besoin qu'on s'approche d'eux personnellement. Devront-ils donc périr sans un avertissement spécial? Il n'en était pas ainsi dans les temps anciens. Des serviteurs de Dieu étaient envoyés pour parler aux grands de ce monde afin qu'eux aussi jouissent de la paix et du repos qui se trouvent en notre Seigneur Jésus-Christ. La majesté du ciel descendit sur la terre pour apporter le salut à l'humanité pécheresse et perdue. Ses efforts ne visaient pas seulement les parias, mais aussi ceux qui occupaient des places d'honneur. Ingénieusement, le Sauveur travaillait à entrer en contact avec ceux qui, dans les classes supérieures, ne connaissaient pas Dieu et ne gardaient pas ses commandements. La même œuvre fut poursuivie après l'ascension du Sauveur. Mon cœur est ému à la lecture de l'intérêt qu'il manifesta envers Corneille. Corneille occupait une position élevée, c'était un officier de l'armée romaine, qui marchait dans la lumière qu'il avait reçue, avec une rigoureuse fidélité. Le Seigneur lui fit parvenir du ciel un message particulier. Puis, par un autre message, il envoya Pierre lui rendre visite afin de l'éclairer. Ce devrait être un grand encouragement pour nous, dans notre travail, que de penser à la compassion et à l'amour si tendre de Dieu pour ceux qui cherchent la lumière et prient pour la recevoir. Dieu m'a montré qu'il y a de nos jours de nombreux Corneilles qui désirent se rallier à son Église. Ils ont de la sympathie pour ceux qui observent les commandements du Seigneur. Mais les liens qui les retiennent au monde sont solides, et ils n'ont pas la force morale nécessaire pour prendre position avec les humbles. Nous devons faire des efforts particuliers en faveur de ces âmes qui ont besoin qu'on s'intéresse à elles d'une manière toute spéciale en raison de leurs responsabilités et de leurs tentations. D'après les instructions que j'ai reçues, j'ai vu que notre devoir, à l'heure actuelle, est de parler aux hommes qui ont de l'influence et de l'autorité dans le monde, avec le mot d'ordre, ainsi a dit l'Éternel. Ils sont les administrateurs à qui Dieu a confié d'importants crédits. S'ils acceptaient son appel, ils utiliseraient ces crédits au bien de sa cause. Certains sont particulièrement qualifiés pour travailler en faveur des classes élevées. Ils devraient rechercher le Seigneur tous les jours, en étudiant les méthodes permettant d'atteindre ces gens, non pas simplement en les rencontrant occasionnellement, mais en les suivant par un effort personnel et une foi ardente, manifestant un profond intérêt pour leur âme, un désir réel de les voir connaître la vérité telle qu'elle est dans la parole de Dieu.